Bonjour à chacun. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé de bonnes fêtes. On s'est pas vu depuis l'année passée, hein. Il y a déjà une année. Non, ça fait déjà un mois. Ça passe tellement vite. Je vois qu'il y a des nouveaux visages que j'ai jamais vus. Donc, ça peut toujours être sympa de faire un peu plus connaissance à la fin du culte. Mais on va essayer de se dégourdir les jambes. Alors, j'aimerais vous lire un verset dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors écoutez, ce matin on va faire un petit exercice. Je vais dire à chacun de se lever et de saluer son prochain et de lui dire ce matin et de prier avec lui et de lui dire que Dieu, il a une destinée pour lui. Il a quelque chose de fantastique pour lui. Il a ceux qui aiment Dieu. Il y a plein de choses qui leur arrivent de bénir son frère et sa sœur. Vous êtes d'accord de faire cet exercice avec moi? Vous n'êtes peut-être pas habitué, hein, mais c'est bien de changer des fois les habitudes. Ça va? Alors levez-vous, prenez quelqu'un dans l'assemblée. Vous êtes peut-être votre voisin ou quelqu'un d'autre avec qui vous pouvez prier. Et puis le bénir, prier ensemble et l'encourager, lui dire que des paroles de bénédiction. Je disais de prier, pas de parler, mais prier. Alléluia. Amen. Alors, on m'a encouragé à donner un autre message sur l'Église, parce qu'il y a un mois, j'étais là, et j'ai donné un enseignement sur l'Église. Alors, je vais peut-être un peu vous parler de comment moi j'ai vécu l'Église, parce que c'est toujours bien d'avoir des choses pratiques, parce que la théorie, ça change pas beaucoup. C'est vrai que ma première expérience dans une Église, quand je me suis converti, j'arrive dans une église qui était, il y avait les femmes qui étaient à gauche et les hommes à droite. Déjà, là, je me suis dit, mais où est-ce que j'ai mis les pieds? J'étais un peu choqué. Vous pensez bien, quand on vient du monde, on arrive dans une église, on pense que tout le monde est mélangé, c'est toujours plus sympa. Et c'est vrai que dans cette église-là, c'est pas une critique que je fais, mais c'était une constatation, c'était vraiment très étroit, je dirais. La pensée de cette église, c'était, on a toujours fait comme ça, on va pas changer notre manière de faire. Et au travers de ça, je me demandais, mais j'avais l'impression que c'était très strict, très austère, que les gens avaient de la peine à se parler, à se prendre dans les bras, à se faire des câlins, comme vous avez fait ce matin. Vous êtes salué, vous avez béni l'autre, dire mais t'as de la valeur, tu es important aux yeux de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, je le dirai jamais assez, l'Église c'est la famille. Et c'est vrai que si on est un exemple dans l'Église, les gens auront envie de venir dans l'Église. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je me suis converti dans cette église, j'ai atterri, si je peux dire comme ça. Je me suis dit, je crois pas que je vais rester très longtemps. Mais le Seigneur, il avait bien il savait ce qu'il voulait faire. Il voulait me former pour me montrer peut-être les différentes églises et accepter peut-être cette manière de faire. Puis c'est vrai que je m'étais assis du côté droit où il y avait les hommes. Et puis comme jeune converti, je voyais la Sainte Seine. Et puis pour moi, la Sainte Seine, c'était très important. Je voyais cette Sainte Seine et je me dis, je vais vraiment m'identifier à ce que Jésus-Christ a fait. Et en voyant cette Sainte Seine qui me passait devant, j'avais une telle frustration de voir cette Sainte Seine qui me passait devant. Et je me disais, mais je ne fais pas partie de cette Église. En tant que jeune, j'avais 18 ans, hein. J'étais frustré parce que je ne pouvais pas participer au corps de Christ. Et je ne pouvais pas m'identifier. Vous voyez, l'Église, des fois, peut devenir comme un club. Si vous ne faites pas partie de ce club, vous ne rentrez pas dans cette sphère, on ne va pas vous donner les choses tout de suite. On va attendre que tu as payé ta cotisation, excusez-moi, et quand tu as payé ta cotisation, on va dire, ben voilà, bienvenue au club. Et l'Église, c'est pas du tout ça. Mais j'avais cette impression, parce que je venais, je débarquais, j'étais à peine converti, tout neuf. Je me disais, mais c'est quand même un peu bizarre. Donc, je le répète, l'Église est une famille. Mais je crois aussi que l'Église doit développer une sensibilité spirituelle. Parce que si l'Église reste dans le naturel, qu'est-ce qui va se passer ? On n'aura que des choses naturelles. Mais si l'Église développe une sensibilité spirituelle, on aura des fruits spirituels dans l'Église. On va lire un verset, c'est le Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Écoutez, j'ai regardé plusieurs traductions. Par exemple, chez Darby, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Mais eux est bien heureux celui qui garde ta loi. Sans révélation, mon peuple périt. Ça veut dire qu'en tant qu'Église, il faut savoir où on veut aller, d'un point A à un point B. Si on ne sait pas où on veut aller, on va se perdre en chemin. Ça veut dire qu'il n'y a plus de frein, on ne peut plus s'arrêter, on est un peu perdu, on perd notre identité comme Église. Alors ce qui est important, c'est de demander cette vision. Mais ça veut dire quoi une vision ? C'est une appréhension immédiate, directe et claire de Dieu ou d'un phénomène surnaturel. Voilà où on en arrive, au surnaturel. Aujourd'hui, on est resté dans une sphère tellement naturelle qu'on n'a pas développé le surnaturel parce qu'on a perdu vraiment la vision de l'Église. Qu'est-ce qu'est l'Église ? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans l'Église ? Quelle est ma vision de l'Église quand je viens à l'Église ? Mais qu'est-ce que je viens faire à l'Église ? Quelle est ma vision pour cette Église aujourd'hui, pour la chapelle de l'espoir ? Posons-nous cette question. Parce que des fois, on vient à l'Église, puis on a perdu vraiment ce que ça veut dire avoir une vision. Le frein signifie aussi en hébreu retourner en arrière. Si on perd la vision que Dieu veut nous donner de l'Église, on retourne en arrière. Et je crois que ce n'est pas le désir de personne de retourner en arrière. On n'est pas digne si on regarde ce qu'il y a en arrière. Dieu veut nous garder, nous préserver, nous rendre captifs, qu'on observe son alliance. Quand on rentre dans la vision que Dieu a prévue pour nous, on va se préserver. On va rentrer dans quelque chose de surnaturel. Parce qu'on a un but, on part d'un point A à un point B. Mais c'est comme dans notre vie. Si on ne sait pas ce qu'on veut vraiment, il n'y a rien qui va se passer vraiment. Vous êtes d'accord? Dans votre vie, vous avez fait des études, vous avez dit je vais aller au tech, je vais aller à l'université, je vais faire 3 ans d'études, ou je vais faire 7 ans d'études pour devenir médecin. Je me suis fixé une vision. Et je crois qu'aujourd'hui, dans l'Église, on a perdu cette vision de ce que Dieu veut pour l'Église, de la chapelle, de l'espoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut? La loi représente ce qui est divin, l'instruction du Messie. Qu'est-ce que le Messie nous a dit? Qu'est-ce que le Messie veut nous dire encore aujourd'hui? Est-ce que Dieu est assez grand encore pour nous parler? Est-ce qu'on est assez prêt pour l'écouter? Pour dire, mais Seigneur, parle, ton peuple écoute. Combien de versets nous trouvons dans la Bible où Dieu aimerait parler et on doit écouter? Notre gros problème, c'est qu'on a de la peine à écouter. Donc si on n'écoute pas, on fabrique notre propre vision. Quand il n'y a pas de révélation, mon peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation. Mais pour recevoir une révélation, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer du temps dans la prière? Je dois écouter ce que le Saint-Esprit veut me dire? Est-ce que j'ai vraiment soif que le Saint-Esprit me parle? Est-ce que j'ai vraiment soif de me dire, mais Seigneur, peut-être je suis pas sur la bonne route? Mais est-ce que j'ai vraiment soif que le Saint-Esprit me parle ce matin? Peut-être il va nous chambouler. Peut-être on avait des schémas prédestinés, une manière de penser déjà tout établi. On a mis Dieu dans notre petite boîte de l'Église. Et on s'est dit, mais Dieu, tu vas travailler dans cette boîte-là. On est très fort pour donner des ordres à Dieu. On a beaucoup de peine à recevoir son amour et ce que lui veut nous dire. Ça change la donne. Des fois, excusez-moi, on est un peu dictateur. Ça nous arrange bien parce que ça nous rassure. Notre manière d'être nous rassure parce que c'est nous qui tenons le couteau par le manche. Excusez-moi d'utiliser cette image. Mais est-ce qu'on est prêt à se remettre en question en tant qu'Église? À dire, Seigneur, mais si j'ai pas la révélation, je suis perdu, le frein, je suis perdu, je retourne en arrière, je reste seul. On va lire Habacuc 2:2. C'est un petit prophète, on a toujours de la peine à le trouver, parce qu'on ne le lit pas souvent, moi le premier. Alors, il doit être par là. C'est un des derniers prophètes. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Est-ce que vous ne croyez pas que le Seigneur, il aimerait encore nous parler, nous donner peut-être une prophétie pour l'Église? Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois qu'on doit rentrer dans cette vision. Je crois qu'on doit rentrer dans cette prophétie que Dieu a pour l'Église. Mais il faut la chercher. Et une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va l'écrire. Et chaque fois qu'on va perdre la vision de ce que Dieu nous a dit, on aura toujours ce papier qui va nous permettre de dire, ben voilà la vision de l'Église. On a pris du temps, du jeûne, dans la prière, pour savoir qu'est-ce qu'il y avait sur le cœur de Dieu. Et une fois qu'il y a cette prophétie, on va continuer dans ce que Dieu nous a parlé. Même s'il y en a peut-être qui vont dire, ah, mais vous êtes complètement à côté. Parce qu'il y en aura, ça c'est sûr. Il y aura toujours des détracteurs. Mais de se dire, mais Seigneur, tu nous as donné une prophétie, on veut vraiment marcher dans cette prophétie. Quand on reçoit une prophétie, on est prêt à courir. C'est comme si on allait délivrer un message royal. une poste divine. On reçoit, vous êtes d'accord qu'aujourd'hui on est dans une société, on reçoit tellement de mails, surtout ceux qui sont dans le cadre professionnel. Ils arrivent le lundi matin sur leur ordinateur, ils ont, allez, 385 mails à lire. Tout à coup, dans ces 385 mails, il y a un mail qui dit « poste divine ». Je vous garantis, sur les 385, que vous allez d'abord lire la poste divine pour savoir ce que Dieu a à vous dire. Est-ce qu'on a vraiment cette soif de dire « Mais Seigneur, quel mail tu vas m'envoyer ?» Envoie-moi un mail parce que je vais vraiment lire. Je vais prendre du temps pour écouter ce que tu as à me dire. Le lire, ça veut dire le crier, le dire à haute voix, le proclamer et tenir ferme par rapport à ce que Dieu m'a dit. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'à la moindre circonstance et à la moindre difficulté, on se dit, est-ce que Dieu vraiment m'a parlé ? Qu'est-ce qu'on crée ? Le doute, à la place de créer la foi. Si Dieu vous parle, il crée la foi en vous, il crée cette dynamique, il crée l'action de dire « mais si Dieu m'a parlé, je vais rentrer dans cette vision ». Mais c'est comme dans notre vie, quelle est votre vision que vous avez ? Là où vous êtes, dans votre travail, dans l'éducation, en tant que père, quelle vision vous avez de votre vie ? Ou quelle révélation vous avez ? Est-ce que Dieu vous parle ? Est-ce que Dieu veut encore vous parler ? Ou est-ce qu'il a cessé de parler ? Est-ce que c'est un Dieu du dimanche ? Ou est-ce que c'est un Dieu du lundi au dimanche ? On peut se poser cette question. Mais je dis toujours, le Seigneur me remet en question. Mais je remets en question les gens. Mais le premier, c'est moi qui l'a mis en question, c'est pas vous. Parce que je suis debout. Dans l'Église, comme je disais, il faut développer cette sensibilité spirituelle. C'est vrai que dans la sensibilité spirituelle, on peut inclure beaucoup de choses. L'intelligence, les sentiments, les émotions, le sens physique. Ce qui concerne des choses de Dieu. On va lire 1 Corinthiens 2, 1 à 15. J'espère que vous avez tous votre épée à double tranchant, parce qu'elle est toujours utile. Puis ceux qui n'ont pas leur Bible ce matin, dimanche prochain, venez avec votre Bible. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir. Alors, 1 Corinthiens 2, à 15. Pour moi, frère, je suis allé chez vous et je n'ai pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de ces chefs de ce siècle n'a connue, car ils ne l'avaient pas connue. Ils n'auront pas, était crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui n'est pas de lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit. C'est vrai que la parole nous encourage et nous exhorte à être crucifiés avec Christ. C'est plus Christ qui vit en moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc je renonce à moi-même, donc je dis non à la chair, je dis non à l'état de faiblesse de ma nature, parce qu'elle a été crucifiée avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vous garantis, si vous faites tous les matins cette prière, si vous la proclamez, vous allez voir que votre être de nature va diminuer, comme disait l'apôtre Paul, que je diminue et qu'il croisse. C'est une clé spirituelle. Je vois tellement de chrétiens, ça fait 20 ans qu'ils ont converti, ils n'ont pas encore compris qu'on a besoin tous les matins de dire non à notre chair, parce que je vous garantis qu'elle va nous réveiller. Je vous garantis qu'elle va faire des choses qui sont contre nature, qui sont contre ce que l'Esprit de Dieu veut faire de notre vie. Alors si j'accepte pas de le faire, je vous garantis que la nature va le faire à votre place. Après me dire, ah mais j'ai fait les mauvais choix, ah mais j'ai fait une chose que je devais pas, ou j'ai péché, oui Seigneur, je suis toujours un sale pécheur. Ce genre de prière, amen, alléluia, on l'est toujours, mais il faut pas rester dans cet état. Sinon Christ, il est mort à la croix pour mes péchés, mais il y a tout le reste. Il m'a donné la victoire contre l'ennemi, il m'a donné la victoire contre moi-même, pour dire, je marche en nouveauté de vie, parce que j'ai été crucifié avec Christ. Donc je renonce à moi-même, à ma petite personne. Donc comment est-ce que je peux recevoir les choses de l'Esprit si je prends soin trop de ma nature? Je dis pas que vous devez pas vous peigner ou faire tout beau pour venir à l'église, hein. C'est pas ça que je voulais dire. Ben, c'est important de venir dans la maison du Seigneur et se réjouir et d'être tout beau. Mais la nature, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il nous donne un discernement. Il nous donne la capacité de voir les choses qu'on ne voit pas. Saint-Exupéry disait « L'essentiel, c'est ce qu'on ne voit pas. » Et nous, des fois, on s'arrête à ce qu'on voit. Dans le domaine spirituel, Dieu nous donne des yeux pour voir des choses beaucoup plus profondes, pas des choses superficielles. Allez, je vous raconte un témoignage. Alors cette semaine, j'ai vu une collègue de travail qui était venue il y a un mois à l'église avec son amie. Elle s'est convertie il y a un mois et demi à peu près. Puis il y a deux semaines, son amie s'est aussi convertie. Puis un jour, on a eu un entretien parce qu'elle me dit « Mais j'ai soif, je veux connaître Dieu ». Une jeune de 28 ans qui vous dit ça, ça vous encourage. Vous dites, mais Seigneur, il y a quand même des gens qui ont soif, c'est super. Elle en veut vraiment. Alors j'ai eu un entretien avec elle, parce que je suis en train de la suivre avec son ami. Et puis pendant cet entretien, le Seigneur me parle et je lui donne une parole. Ça venait pas de moi, parce que je la connais pas très bien. Quand Dieu parle, c'est tellement précis, c'est tellement profond, que soit je résiste, ou soit j'abdicte, et je suis guéri. C'est pas compliqué. Mais le gros problème, c'est que souvent on a peur. Le Seigneur nous dit, c'est pas avec la peur. La peur, c'est pas un bon conducteur. C'est avec la foi que là sera ta force. Et elle a vécu une délivrance. Mais je m'y attendais vraiment pas. Quand le Seigneur nous surprend, quand une parole de révélation est donnée, ça touche pour libérer des choses qui ont besoin d'être libérées dans notre vie. Parce qu'on traîne des fois un tel carcan qui nous empêche de recevoir les choses de l'Esprit. Dieu ne nous juge pas, il nous attire. C'est pas la même chose. Par amour, il nous attire. Mais il faut qu'on soit d'accord. J'aime bien prêcher sur Marie. Une fois, je vous prêcherai sur Marie. Parce que ça a été tellement un exemple, cette femme. Vous êtes d'accord? Quand elle a dit oui. Elle a dit oui. Mais Dieu nous attend et nous dit, mais qu'est-ce que tu veux dire ce matin pour recevoir la révélation? Est-ce que tu es d'accord de dire oui pour que je fasse une nouvelle œuvre dans ta vie? Et que tu renonces à la chair, que tu renonces à ta nature, pour dire, Seigneur, il y a un changement dans ma vie qui doit être opéré. Qu'est-ce que je veux vraiment? Vous savez qu'à l'époque de Jésus, il y avait tellement de gens différents, de milieux religieux. Il y avait des comportements qui n'étaient pas du tout adéquats à ce que l'Écriture nous enseigne. Jésus a remis en question la plupart des chrétiens. C'est terrible! Il a remis en question aussi les gens qui n'étaient pas chrétiens, mais leur disait « Va et ne pêche plus ». Mais aux chrétiens, il disait pas ça. Il était beaucoup plus dur. Je sais pas si vous regardez les Écritures, hein, on va dire les versets. Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. L'insensibilité. Aujourd'hui, on est dans une société où on nous forme, je dirais, à être insensible. C'est terrible. Dans le travail, dans beaucoup de choses. Et on est devenu insensible. Malheureusement, parce que la société nous dicte à être comme ça. Et la Bible nous dit tout le contraire, à être sensible, à recevoir des choses de l'esprit, à ouvrir notre cœur. Le cœur, le siège de nos émotions, le siège de nos sentiments. Si le cœur n'est pas transformé, comment le reste peut être transformé? Le cœur est le centre que Dieu aimerait toucher. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il est écrit « Que Dieu change mon cœur de pierre en un cœur de chair. » Dieu nous dit toutes ces choses parce qu'il nous aime tellement, il nous a créés à son image. Il sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc il est là pour nous guérir, pour nous transformer. Ça, c'est la chapelle de l'espoir, comme vous le dites, comme elle a été créée, cette église. C'est l'espoir que Dieu nous donne. Des fois, on a endurci notre cœur pour pas entendre ce qu'on a envie d'entendre, ou parce que ça nous fait peur, ou parce que ça nous fait mal, ou parce que on se dit, mais tout va bien, j'ai toujours vécu comme ça, pourquoi je dois changer? Ça serait terrible. Allez, je vous raconte une autre histoire. J'aime bien raconter des histoires parce qu'il faut être pratique, la théorie. J'ai un ami que j'ai vu il y a un mois, en sortant de l'église, il pleurait, il vient vers moi, puis il me dit, tu sais pas la nouvelle? Je lui dis non, je le vois tout seul, là je commence à m'inquiéter. Et il me dit, écoute, ma femme est partie avec un autre, ça fait 10 ans qu'on est mariés, et elle me trompe depuis une année, j'ai appris ça dernièrement. C'était vraiment le coup d'un semoir, vraiment, mais j'avais envie de pleurer avec lui tellement que c'était fort. Et puis il m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Je lui ai dit, écoute, peu prier, c'est tout, voilà ce que je peux faire. Écoute, je te propose que on fasse un bout de chemin ensemble, on se voit régulièrement pour l'encourager. Alors je l'ai vu la semaine passée, il est venu chez moi, on a discuté. Puis il me disait, mais tu vois, pendant ces années de 10 ans de mariage avec ma femme, peu à peu, on avait perdu notre relation avec Dieu. Puis voilà ce qu'on en est aujourd'hui. Ça veut dire qu'il s'est aussi remis en question. Il n'a pas seulement cassé du sucre sur sa femme qui est partie avec un autre, mais visiblement, il y avait un problème. Il me disait, mais tu vois, ma foi, elle est très intellectuelle. C'est beaucoup avec la tête. Et il me semble que j'ai même contrôlé Dieu avec ma tête. C'est un jeune qui a 32 ans qui me disait ça. J'étais choqué. Il me disait, mais ça fait 20 ans que je suis chrétien et je réalise ça aujourd'hui, que j'ai besoin d'être libéré, que j'ai besoin d'être débloqué, parce que ça s'arrête qu'au niveau de ma tête. Je n'arrive pas à rentrer dans une dimension spirituelle avec mes émotions, mais c'est que ma tête qui contrôle tout. Vous imaginez un jeune de 32 ans qui vous dit ça? J'étais sous le coup. Alors je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose dans cette situation. Et il a dit, Seigneur, je laisse tomber le contrôle de ma vie. Après 20 ans de conversion, je laisse tomber ma vie, tu la prends. J'en ai marre de prendre toujours ma vie et puis de faire ce que j'ai envie. Il a fait cette prière, mais une prière d'humilité, parce qu'il a reconnu qu'il y avait un tel orgueil qui voulait contrôler même Dieu et sa vie. Il a dit, Seigneur, je te demande pardon pour mon orgueil. Je te demande pardon parce que j'ai contrôlé ma vie. Il a fait cette prière, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il a vécu une délivrance, une guérison au niveau de ses émotions. C'est un début, hein, c'est bien clair. Mais pour vous dire, c'est une clé. Et je crois que s'il faut passer du temps dans la prière pour débloquer, ben le Seigneur, il a quelque chose pour nous, aujourd'hui. Et il veut pas nous laisser dans une situation comme ça. Parce que c'est vrai que l'apparence est souvent trompeuse. On a l'air tous d'aller bien, mais quand le Saint-Esprit vient en profondeur, il révèle les choses, il révèle qui on est vraiment, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous amener plus loin, parce qu'il veut nous amener sur la vision que lui a prévue pour l'Église, pour notre vie. C'est ça qui est fantastique. Comme disait un grand prédicateur, il faut apprendre à mourir pour vraiment vivre. Et ça, je crois que c'est vrai. Parce que la vraie vie, c'est en Jésus, c'est pas notre vie. Parce qu'il nous l'a donné, il s'est offert gratuitement pour nous. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'il a pu faire. Vous êtes d'accord? Jésus parle de l'insensibilité. Il décrit, c'est ma manière de voir. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Je pourrais avoir un peu un verre d'eau. Donc ma manière de voir, ma manière d'entendre et ma manière de comprendre. Je crois que ces trois points sont une clé pour dire non à l'insensibilité. C'est ma manière de voir, ma manière d'entendre et ma manière de comprendre l'Écriture. Merci beaucoup. Tu auras une grande récompense dans le ciel, ma sœur. C'est un peu plus plat, là. Voilà. Aujourd'hui, le Seigneur nous remet en question. Mais son but, c'est de nous faire grandir. C'est comme quand on éduque nos enfants. Des fois, on n'est pas toujours tendre. Des fois, on n'est pas toujours sympa, gentil. Mais on est ferme. Et je pense que le Seigneur, comme un vrai papa, il est ferme avec nous. Parce qu'il nous aime tellement qu'il ne va pas nous faire aller dans une routine où on est là, où on grandit pas, où on se dit mais il n'y a rien qui change. Tu vois, Seigneur, on a prié, on a jeûné, on a fait tellement de choses. Ma vie, elle ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le Seigneur qui dit des bêtises, ou est-ce qu'il dit vrai, ou est-ce que c'est moi qui raconte des bêtises? On peut se poser la question. Est-ce que la parole de Dieu, elle dit vrai? Plus on la met en pratique, plus on passe de l'état de chrétien à disciple. Pourquoi ça fait mal? Ces passages font mal parce que le Seigneur, il vient chercher en profondeur. Est-ce qu'on veut rester dans un état de chrétien ou devenir disciple de Jésus-Christ? Le disciple a une vision, a une révélation de ce que Dieu veut dans sa vie. Et on est tous appelés à être des disciples de Christ. Disciple veut dire en grec mathétès, qui vient de mathématiques. Donc mathématiques, discipline. On ne peut pas être disciple si on n'a pas une discipline, si on ne fait pas des calculs, si on ne réfléchit pas, si on n'est pas transformé de notre intelligence, de notre manière d'écouter la voix du Saint-Esprit. Je prends trop de temps, là, ça va. Je m'en rendais pas, quoi. Ça va? Il y aurait tellement de choses à dire. Excusez-moi, je parle trop, hein. Ça va jusque-là? Dans l'Église, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a des dons que Dieu aimerait donner à l'Église. Mais si on n'a pas la révélation, comment est-ce qu'il veut nous donner des dons? C'est pas possible. On peut pas les recevoir. Parce que si on marche dans notre nature et notre chair, comment est-ce qu'on peut recevoir des choses de l'Esprit? C'est pour ça que Saint-Esprit, il veut nous former dans les choses de l'Esprit pour qu'on puisse recevoir et donner, comme le don de prophétie, le don de donner des messages de Dieu, le don de guérison. Allez, on va lire quelque chose. 1 Corinthiens 12, 28 à 31. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Tout le monde sait ce que c'est l'excellence. Si vous avez tous ces dons puis vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est ce que la parole nous enseigne. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut tellement cet amour que pour finir, on ne l'a pas trouvé et puis on ne met pas en pratique les dons. Donc, recherchez aussi les dons. Le Seigneur va affiner les dons par l'amour. Parce qu'au début, je vous garantis que c'est pas facile de prier pour quelqu'un qui est malade et d'avoir de l'amour et de la compassion. Parce que des fois, on prie juste pour prier, parce qu'il faut prier pour la guérison, et ça s'arrête là. Donc le Seigneur, il aura le temps de nous former pour qu'on puisse vraiment, par la voie de l'excellence, par l'amour. Mais si on met pas en pratique ces dons, comment est-ce que je vais apprendre vraiment à aimer? Faut se poser la question. Aspirer au don. Aspirer au don. Est-ce que chacun de vous sait quel don le Seigneur lui a donné? Oh, mais j'ai pas tellement de dons, moi, tu vois, frère, je viens à l'église, tout va bien. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Parce que les dons, c'est pas pour vous, c'est pour les autres, c'est pour l'église. C'est pour donner, don, c'est pour donner, hein. C'est pas pour soi. Le seul don, je dirais, c'est le parler en langue pour l'édification personnelle. Ça, c'est pour nous, parce qu'on en a tous besoin. Donc, est-ce que vous parlez en langue régulièrement? On peut se poser la question. Est-ce qu'on veut grandir à l'intérieur pour que je puisse recevoir des dons et les donner à l'Église? Faites une liste ce soir quand vous rentrez à la maison. Dire, mais Seigneur, moi j'aimerais ce don-là. Ah, oh, super, il me plaît ce don-là, Seigneur. Je veux recevoir de toi. J'ai soif de recevoir. Vous ne croyez pas que le Seigneur il va vous le donner? Si vous avez vraiment une bonne motivation et vous cherchez ces dons. Dans Éphésiens 4, 18, parle de l'intelligence qui est des fois obscurcie. Le Seigneur nous donne aussi une intelligence pour comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on marche que par la foi, il n'y a pas l'intelligence. Ça fait partie aussi de ça. Mais l'intelligence doit être soumise au Saint-Esprit. La faculté de notre esprit et de notre âme est de percevoir des choses qui sont sensibles comme l'intelligence, les sentiments, les émotions. Mais le Saint-Esprit, il veut régner sur notre sensibilité, sur notre intelligence, sur nos sentiments, sur nos émotions. Il veut régner. Mais est-ce qu'on lui laisse toute cette place? Je vais vous lire un dernier verset, c'est Philippiens 4, 8. On devrait le savoir par cœur. Alors, Philippiens. Au contraire, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable et tout ce qui est juste, tout ce qui est pur et tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il y a 8 choses dans mes pensées. Je vous laisse comme une ordonnance médicale. Philippiens 4, 8, à apprendre par cœur. Vrai, honorable, juste, pur, aimable, l'approbation, vertueux, digne de louange. Sacré programme! Mais c'est ce que le Seigneur veut nous faire rentrer dans nos pensées, parce que ça commence par là. Le diable, il nous attaque toujours au niveau de nos pensées. C'est toujours là que ça ne fonctionne pas. Mais si ça fonctionne bien là, je vous garantis que vous rentrez dans une victoire, une conquête de l'Évangile, un amour pour les autres, parce que vos pensées font partie de tout ce que je viens de vous dire. Mais il faut les saisir tous les matins, dire « Seigneur, ce qui est pur, digne, honorable, juste, vertueux, digne de louange, vous devez le dire avec vos paroles, vous devez proclamer toutes ces bonnes choses sur votre vie pour qu'elles se réalisent. » Nous, ce qu'on fait, on prend toutes les choses négatives, puis après on se dit « Oh, mais ça ira mieux, on va prier. » C'est pas comme ça que ça confiance. Ça veut dire qu'on a peut-être une piètre opinion de soi-même, mais je vous garantis que tous les matins vous mettez ces pensées dans vos pensées, vous allez changer cette manière de voir. Si vous changez les pensées, vous allez gagner le monde. C'est une question de pensée. Et le Saint-Esprit va mettre ce qu'il faut. Amen. Alléluia. Pour encore continuer, mais je crois que je vais m'arrêter là. J'avais beaucoup de choses à dire, excusez-moi, j'ai parlé avec mon cœur, je suis comme ça.